J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1. On lira les versets 3 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 16. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Est-ce que vous savez qui a utilisé ce slogan « Ensemble, tout devient possible » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non? Presque? Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne de 2007. Barack Obama, vous vous souvenez de la campagne de 2008? Yes, we can. Oui, nous pouvons. Hein, autrement dit, avec moi, tout est possible. Ces slogans se basent sur une citation de Napoléon Bonaparte, en tout cas qui est attribuée à Napoléon Bonaparte. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'espérance, en quête d'une espérance vivante. Et avant d'aller plus loin, j'ai juste une devinette pour vous. Qui a dit « Le 6 mai doit être une grande date pour notre pays, un nouveau départ pour l'Europe, une nouvelle espérance pour le monde ?» Je ne réponds pas tout de suite, et je vous laisse réfléchir, et puis on y reviendra tout à l'heure. C'est comme ça, vous gardez espoir peut-être d'avoir la réponse jusqu'à la fin. Okay ? Pourquoi est-ce que ça marche toujours ? Pourquoi est-ce que les hommes politiques, quelles que soient les campagnes, quelles que soient finalement les époques, ont utilisé ce thème de l'espérance pour pouvoir gagner nos voix, pour pouvoir gagner les voix des électeurs? Je crois que la réponse, elle est très simple. C'est que tout être humain connaît l'espoir. D'ailleurs, regardez dans notre langage courant le nombre d'expressions qu'il existe où il y a le mot espoir dedans. Il faut garder espoir, il ne faut pas perdre espoir, tant qu'il y a une lueur, tous les espoirs sont permis. Il reste encore un peu d'espoir. Ah, il y a peu d'espoir qui viennent encore. On dit aussi avoir bon espoir. Et puis, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, on dit que quelqu'un voit tous ses espoirs s'anéantir. Et puis, l'expression peut-être qui est la plus connue, c'est que l'espoir fait vivre. Donc, ça vaut peut-être la peine ce matin de se pencher sur ce thème. Avoir une espérance est en effet indispensable pour vivre, Et ça, remarquez que ce n'est pas une question d'être chrétien ou de ne pas être chrétien. L'être humain est psychologiquement conçu comme ayant la nécessité d'avoir un espoir, d'avoir une perspective sur l'avenir. C'est indispensable pour la vie et pour l'équilibre intérieur d'une personne. Si une personne n'a plus d'espoir, si une personne n'a plus d'espérance, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ouais, c'est suicide. Ok, il y a plus d'espoir, mais quand il n'y a plus d'espoir, ben c'est la mort qui arrive. Ok ? Ou alors, si une personne n'a plus d'espoir, c'est qu'elle a atteint la perfection. Dans ce cas-là, plus de problème, plus besoin d'espoir. Et ce qui est intéressant de réfléchir, c'est que sur cette base, à savoir que tout être humain a un espoir, a une espérance, c'est de savoir comment distinguer finalement les espérances. Parce que si nous avons tous des espérances, il faut bien être conscient que toutes les espérances ne se valent pas. Toutes les espérances ne sont pas vivantes. Et on va voir ensemble comment découvrir ce qu'est une espérance. Comment découvrir si elle est vivante sur la base notamment de son socle, de sa fondation, de ses fondations. Une espérance, ça consiste en quoi ? C'est attendre quelque chose que je crois réalisable. Quelque chose dont je ne crois pas que ça va se réaliser, c'est pas une espérance, ok ? Quelque chose, c'est attendre quelque chose que je crois être réalisable. Autrement dit, l'espérance se traduit par un sentiment que l'on appelle l'espoir. D'accord ? L'espérance, c'est l'attente de quelque chose. L'espoir, c'est le sentiment que nous avons que cela se réalise. Autrement dit, l'espérance, elle est fondée sur quoi ? Bien, sur tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, qui sont mes envies, mes désirs, mes passions, mes rêves. Voilà comment on peut trouver quelle est son espérance. Cette espérance, elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle. Alors matérielle, par exemple, c'est tout simplement l'espérance de trouver un emploi ou un meilleur emploi. C'est l'espérance d'obtenir un meilleur salaire, l'espérance d'habiter dans une maison, etc. Immatérielle, parce qu'une espérance, ça peut être tout simplement l'espérance d'un monde meilleur, l'espérance du paradis sur terre, etc. Et dans l'histoire, on trouve toutes sortes de manifestations de l'espérance. Elle peut être politique, elle peut être économique. Actuellement, notre espoir, c'est que la crise économique se termine. Elle peut être aussi sociale, tout simplement, que notre société française vive dans l'unité, dans la paix, etc. Mais bien sûr, l'espérance peut aussi être religieuse. Et alors, j'aimerais avec vous se pencher tout simplement sur les versets 3 à 9 de notre texte. Pierre ici, il décrit une particularité de l'espérance. Pour lui, au verset 3, il existe une espérance vivante. Alors, en quoi elle consiste, cette espérance vivante ? Dans les versets 3 à 9, Pierre va nous donner trois caractéristiques majeures de cette espérance vivante. Tout d'abord, au verset 4, cette espérance consiste en un héritage. Au verset 5 et 9, cette espérance se traduit par le salut. Et puis, au verset 6, il est question aussi de la louange, la gloire et l'honneur que nous recevrons au retour de Christ. Alors, tout d'abord, au verset 4, l'espérance se traduit par un héritage. Un héritage qui est qualifié d'indestructible, qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller ni se flétrir. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'il n'y a rien, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur, qui peut arrêter, anéantir, détruire cet héritage. Autrement dit, il y a quand même un paradoxe là. Je ne sais pas si vous réalisez. Si j'attends un héritage, c'est que j'attends quelque chose de concret, quelque chose de matériel, ou même si c'est immatériel, j'attends quelque chose sur mon compte en banque, si vous voyez ce que je veux dire. La réalité ici, c'est que cet héritage, est-ce qu'il est invisible ? Est-ce qu'il est immatériel ? Le texte ne dit rien là-dessus. Et on ne peut pas se baser sur ce texte-là pour répondre à cette question. Par contre, ce que ce texte nous dit, c'est que cet héritage, il est placé à l'UBS, l'Union de Banques Sûres. Et puis si je pouvais aussi ajouter une autre banque que vous connaissez peut-être, la BCV, là où travaille mon oncle. La BCV, c'est en Suisse, c'est la Banque cantonale vaudoise. Donc elle est moins connue parce qu'elle est cantonale, mais c'est aussi une banque riche. Enfin, c'est un pléonasme de dire ça pour une banque suisse. Mais la BCV, c'est la banque céleste et vraie. Puisqu'ici, il nous dit que cet héritage nous est réservé dans les cieux. L'espérance vivante se traduit donc par un héritage que l'on est sûr d'obtenir. L'espérance vivante se traduit aussi par le salut. Alors là, au verset 5, il nous est dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et c'est répété au verset 9 « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Et là, bien sûr, il y a plein de questions qui se soulèvent dans notre esprit et on se dit « Mais lorsque tu deviens chrétien, tu réalises que tu es sauvé. » Alors pourquoi est-ce qu'ici le salut nous est proposé au futur comme un héritage, comme une espérance à venir? Bien tout simplement parce que le salut, c'est à la fois quelque chose que l'on reçoit lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur, que l'on reçoit au début de la vie chrétienne, mais le salut, c'est aussi quelque chose qui est appelé à s'accomplir, qui est l'accomplissement de toute une vie de marche avec Dieu et qui se réalise au ciel. Le salut, il se traduit par la justification que l'on obtient lorsqu'on reconnaît ce que Christ a fait, mais il se traduit aussi par la glorification de notre corps, de notre être, lorsque nous serons auprès du Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin sur ce thème-là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et j'aimerais juste continuer avec le verset 6. Le verset 6, il dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant... » Excusez-moi, ce n'est pas le verset 6 que je voulais lire, c'est le verset 7, non ? Oui, c'est ça. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or véritable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et ce qui est assez extraordinaire ici, c'est que cette louange, cette gloire et cet honneur nous concerne nous. Comme parabole que le Seigneur Jésus raconte dans les évangiles, dans Matthieu 25, lorsque le maître vient et qu'il voit que son serviteur a bien pris soin de la maison, dont il avait la charge en son absence, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et ça, c'est extraordinaire parce que, autrement dit, non seulement on a cette assurance que certes, nous serons un jour dans la présence de Jésus, mais il va nous accueillir d'une telle sorte que ça va être la fête, ça va être extraordinaire. Il aura les bras grands ouverts et il sera rempli lui-même de louanges envers nous. Et ça, c'est un mystère que je vous invite à découvrir dans la suite de ce que nous pouvons trouver dans ce texte. Pierre nous donne donc la nature de l'espérance vivante. Mais il donne aussi les raisons pour lesquelles cette espérance est assurée. La réalisation de cette espérance est assurée. Et je vous propose ensemble de découvrir les fondements de l'espérance. Est-ce que vous savez quelle est la couleur de l'espoir? Ok, vous êtes tous d'accord? Il y a un historien qui s'appelle Michel Pastoureau, qui est le spécialiste des couleurs. Il y en a certains dans la salle qui le connaissent. La particularité de Michel Pastoureau, c'est qu'il démontre qu'en fait, le choix du vert comme couleur de l'espoir est très récent et qu'historiquement parlant, le vert n'est pas du tout la couleur de l'espoir. Il explique au contraire que le vert, par exemple, était utilisé dans les casinos à Venise, déjà au XVIe siècle. Le vert, en fait, servait à recouvrir les tables sur lesquelles on jouait de l'argent. Il explique aussi que le vert était utilisé, par exemple, pour représenter les serpents, les dragons, pour représenter aujourd'hui les extraterrestres. Autrement dit, le vert, pour lui, c'est pas du tout la couleur de l'espoir, ou en tout cas pas seulement la couleur de l'espoir, mais c'est aussi la couleur de la chance, ou de la malchance, du hasard, de la fortune, ou de la mauvaise fortune. Et de là, on peut se poser la question de savoir, mais si t'as un espoir, si tu as une espérance, quelles sont les chances que ton espérance se réalise? Si l'espérance sur laquelle tu fondes ta vie, en réalité, est une espérance qui ne va pas se réaliser, est-ce que ça vaut la peine de la conserver? Et pour cela, il faut en être sûr. Il y a une expression qu'on utilise aussi dans notre langue française, c'est l'expression « avoir de faux espoirs ». Et c'est très facile d'avoir de faux espoirs. C'est quoi avoir de faux espoirs? C'est lorsque ton espérance repose sur quelque chose qui n'existe pas ou qui est passager. Par exemple, tu es en train de marcher dans le désert et là, tu as vraiment soif, il faut que tu boives, mais ta gourde est vide. Et qu'est-ce que tu vois au loin? Un oasis. Et là, tu te mets à courir vers l'oasis et tu arrives vers l'oasis. Et en fait, il n'y a pas d'oasis, il n'y a que du sable. Tu as été trompé par un mirage. Voilà ce qu'est un faux espoir. Alors, que peut être un faux espoir? Un faux espoir, ça peut être tout ce qui concerne tout ce qu'on pense pouvoir motiver notre vie, donner un sens à notre vie, mais qui au final se révèle être comme une friandise qui disparaît et qui ne donne pas vraiment de sens. Exemple, s'engager à 150% dans des actions humanitaires pour soulager la douleur des autres peut être un faux espoir. Par exemple, vouloir faire tout ce qu'il faut pour prendre soin de sa famille, sécuriser sa famille, placer son argent au bon endroit, investir dans les bonnes banques et dans les bons paradis fiscaux. Non, ça ne peut pas le faire, ça. Tous ces efforts pour sécuriser sa situation financière, matérielle, est important, mais peut se transformer en faux espoir. Et puis, on pourrait décliner comme ça toutes sortes d'exemples. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbes 23, verset 4-5. « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Si ton espérance prend une telle place dans ta vie, si ton espoir de t'enrichir prend une telle place dans ta vie que tu ne penses plus qu'à ça, et que tu ne peux plus vivre que pour ça, c'est que tu es en train de fonder ta vie sur un faux espoir. Alors, il n'y a pas seulement des faux espoirs, il y a aussi des tueurs d'espoir. Et cela, c'est les plus dangereux. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, mais ils sont plus proches de vous que vous ne le pensez. Ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps dans ma journée, c'est allumer France Info. Et c'est super, en 5 minutes, je sais ce qui se passe, un peu partout en France et sur la planète, etc. Et puis, parfois, j'ai l'occasion d'allumer France Info plusieurs fois dans la journée. Et puis, au bout d'un moment, j'ai toujours cette réaction de dire « Ok, maintenant, stop, j'en peux plus, je veux plus écouter. Ok, je sais ce qui se passe, j'ai compris. » Et puis là, tout d'un coup, tu entends cette histoire de procès au sujet d'un meurtrier. Et puis, tu as le journaliste qui fait le compte-rendu exact de tous les détails de la manière dont le meurtre a été commis, etc. Et tu réalises que ça te plombe et que ça te tire vers le bas et que finalement ton espérance là est en train d'être petit à petit grignotée par les mauvaises nouvelles. D'où l'importance d'équilibrer. Je dis pas qu'il faut pas écouter France Info ou autre radio d'information, mais qu'il faut équilibrer. Si tu écoutes ça toute la journée, mais à la fin de la journée, mais tu n'as plus envie de vivre, quoi. Mais c'est normal, parce que si France Info nous racontait l'histoire des trains qui arrivent à l'heure, on n'écouterait pas, ok? Ah tiens, je vais vous parler de Lyon aujourd'hui parce que justement il s'est rien passé à Lyon hier, donc parlons-en. Vous pensez que vous allez écouter une radio comme ça? Les tueurs d'espoir, c'est pas seulement les mauvaises nouvelles, mais les tueurs d'espoir, c'est le tueur ultime de l'espoir qui est la mort. Puisque la mort, c'est la fin de l'espoir. La mort, c'est l'anéantissement de tout espoir. Quand il n'y a plus d'espoir et que la mort se présente, eh bien, c'est la fin. Et vous voyez que la mission de ces tueurs d'espoir, de ces tueurs à gages d'espoir, la mission de ces tueurs à gages, c'est de nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. À force de te répéter encore et encore des mauvaises nouvelles, et encore des mauvaises nouvelles, et encore des mauvaises nouvelles, tu finis par croire que quand tu vas ouvrir ta porte, il y aura un loup dans la rue qui va te manger. Ok ? Alors ça, c'est qu'on dit aux enfants, mais nous-mêmes en tant qu'adultes, finalement, c'est ce qu'on croit. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Une application très simple que je vous laisse. Réfléchis pour ta vie, quel est l'équilibre dans les choses que tu entends, que tu lis ou que tu regardes, quel est l'équilibre entre les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles. Pour revenir au texte, à notre texte de départ, vous avez vu que Pierre, ici, nous dit qu'il existe une espérance vivante. Sur quoi elle repose, l'espérance vivante de Pierre? Non pas sur de faux espoirs, non pas sur des tueurs d'espoir. L'espérance de Pierre repose sur verset 5, la puissance de Dieu. À vous qui êtes gardés par la puissance, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être dans les derniers temps. Vous remarquez que ce n'est pas la foi qui est la garante de l'espérance, mais c'est la puissance de Dieu sur laquelle repose cette foi. Deuxièmement, cette espérance, elle repose sur la certitude que Dieu nous forme et nous transforme. Il est dit ici, verset 6, « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Vous remarquez qu'il écrit « il le faut ». C'est donc des épreuves indispensables. Mais ces épreuves, verset 7, ont pour conséquence afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ainsi, tu réalises, dans l'espérance de Pierre, que l'espérance vivante dont il parle lui permet de traverser, de vivre les épreuves avec la certitude que Dieu est derrière et qu'il les utilise pour transformer ta vie et que finalement elles ont un sens et qui te font avancer et qui te rapprochent de ce que Dieu veut. Ce qui est extraordinaire dans cette réalisation, c'est que non seulement la puissance de Dieu est à l'œuvre, non seulement la formation de Dieu est en cours pour certifier l'espérance vivante, mais par-dessus le marché, il y a un héritage, au verset 4. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, cet héritage qui est sûr et certain, repose sur un paradoxe ici. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait héritage? Il faut la mort. Et il faut la mort d'un ascendant pour que le descendant puisse obtenir ce qui vient de l'ascendant. Ici, la promesse qui est faite, c'est que nous allons obtenir un héritage après notre propre mort. Alors, est-ce que vous comprenez le paradoxe là? Il y a un héritage qui nous est promis, mais après notre propre mort. Et ça semble ne pas être logique. En fait, il y a bien une mort. Cet héritage qui nous est promis après notre propre mort n'est possible que parce que Christ est mort. Et c'est l'héritage que Christ a gagné pour nous à la croix. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est ce qu'on n'aura pas le temps d'étudier, mais dans les versets 8, 9, 10, on voit que des prophètes ont passé toute leur vie dans l'Ancien Testament à rechercher cet héritage, à rechercher cette espérance vivante. On voit que les anges même recherchent cette espérance vivante. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, pour résumer, vous comprenez que les fondements de l'espérance de Pierre reposent sur trois choses. Elle repose sur la puissance de Dieu, elle repose sur la formation de Dieu, et elle repose sur le don de Dieu par Jésus-Christ à la croix. Il faut que je vous parle de Karl Marx. Parce que il y a une objection qui est extrêmement pertinente et que je dois vous transmettre ce matin. Vous l'avez peut-être déjà entendu, cette objection. De dire, mais finalement, vous les chrétiens, Vous dites oui, vous avez, j'ai une espérance dans l'éternité. Donc finalement, si tu souffres sur la terre, si tes circonstances de vie sont compliquées sur la terre, prends ton mal en patience, ça ira mieux plus tard. Ça ira mieux dans l'éternité. Et finalement, c'est facile. Allez, c'est bon, tu souffres là, mais ça va aller mieux. Et puis dans au ciel, tout sera parfait. Ça, c'est l'objection de Marx. Pour Marx, la religion est une réponse à la souffrance par le moyen de l'espérance d'une vie meilleure. D'accord ? Jusque-là, vous êtes d'accord avec ça. La religion, c'est l'attente de la vie éternelle, la promesse du paradis, et qui est finalement l'image parfaite d'un bonheur infini. Mais pour Marx, cette espérance qui est censée être dans l'au-delà, censée nous consoler sur la terre, pour lui, c'est une illusion. Parce que, en fait, il considère que cette espérance pousse les gens à la résignation. Comme tu sais que ça ira mieux après, eh bien, tu ne fais pas d'effort pour que les choses changent maintenant. Et il y a cette expression célèbre lorsqu'il dit que la religion est l'opium du peuple. Alors pourquoi il utilise cette expression ? Écoutez l'explication. La religion est l'opium du peuple au sens où elle est comme une drogue qui tend à faire oublier nos souffrances par la promesse d'un bonheur éternel. Je répète ça, la religion est l'opium du peuple au sens où elle est comme une drogue qui tend à faire oublier nos souffrances par la promesse d'un bonheur éternel. Pensez aux circonstances dans lesquelles Marx a écrit ça. On est en 1843, d'accord ? Marx commence à côtoyer des ouvriers dans la région d'Allemagne où il habitait, enfin c'était la Prusse à l'époque, et ils étaient conscients des graves difficultés et des graves inégalités qu'il existait dans sa société. En plus, parmi les dirigeants qu'il côtoyait, il y avait beaucoup d'hommes religieux, surtout dans cette Allemagne protestante dans laquelle il habitait. Par conséquent, son objection de dire mais finalement, la religion est une drogue qui te détourne des vraies réalités et qui t'aveugle sur les circonstances dans lesquelles tu vis, est une objection qui est tout à fait pertinente et que je trouve recevable et qu'on ne peut pas écarter comme ça d'un revers de la main en disant non mais Marx c'était un anti-religieux primaire et son matérialisme n'avait rien de concret et de sûr. Non, je pense qu'on ne peut pas écarter cette remarque d'un revers de la main. Sauf en revenant au texte qui est le nôtre et qui nous invite à découvrir si nos espérances sont vivantes. Parce que finalement, ce que Marx propose, c'est de dire, peu importe que l'espérance soit dans l'au-delà, votre espérance, elle est ici, maintenant, sur la terre de votre vivant, donc faites ce qu'il faut, faites la révolution pour changer les choses, maintenant. Mais qu'est-ce qu'il propose ? Une espérance ? Rien de plus ? Il reste dans le domaine de la religion. Sauf que lui ne propose pas un avenir dans l'au-delà, mais un avenir sur la terre. Est-ce que l'espérance de Marx était vivante ? On va essayer de le voir à travers les réflexions de Pierre ici. Regardez ce que nous dit Pierre. Il nous dit qu'une espérance vivante, en réalité, est visible déjà dans une vie aujourd'hui. Une espérance vivante, en réalité, elle est bouleversante. Je ne vous ai pas parlé du contexte de rédaction de l'épître de Pierre. Pierre, ici, dans cette épître, il écrit à des groupes de chrétiens qui sont un peu dispersés de partout. Certains sont des jeunes chrétiens qui n'ont pas reçu un enseignement très important. Et Pierre va à tout prix leur donner des bases solides de leur connaissance de Dieu, mais des bases qui se traduisent par une vie pratique. Parce que pour Pierre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la vie chrétienne est une vie bouleversée. Et regardez ce que Pierre dit ici. Il dit qu'il propose deux aspects en fait de ce bouleversement, deux raisons de ce bouleversement. La première raison, c'est qu'une espérance vivante, se traduit par comme un aimant qui attire du fer. C'est une espérance vivante, elle se traduit par la joie et la confiance dans ce que Christ a fait, de telle sorte que tu as envie d'imiter le comportement de Jésus-Christ. Et si tu as envie d'imiter le comportement de Jésus-Christ, alors cette espérance chrétienne ne se limite pas à un avenir lointain, mais elle se traduit dans ton propre comportement. Quel est ce comportement que Pierre nous propose ici? Ce comportement, il est très simple. Vous voyez la dernière ligne, là, c'est le comportement de Christ. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous serez saint car je suis saint. Le comportement que Pierre nous propose, c'est celui de Christ, la sainteté. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, tu dois être saint. Dans ce que tu penses, revenons à ce que dit Marc tout à l'heure. Marc dit, la religion, c'est une drogue qui te pousse à la résignation aujourd'hui parce que tu penses à l'avenir après la mort. Mais ici, Pierre dit que on doit ceindre les reins de notre entendement. Autrement dit, ce que tu penses a une importance. Si tu as des responsabilités politiques, tu dois prendre tes décisions, tu dois mener tes réflexions selon le comportement de Christ. Et tu ne peux pas te permettre d'être un homme politique et de prôner chrétien et de prôner des valeurs qui sont à l'opposé de celles de Christ. Et je pense qu'il y a un bon exemple d'engagement à ce sujet dans le passé. Un Anglais qui s'appelait Wilberforce, il était un député, s'est engagé corps et bien dans la lutte contre l'esclavage en Angleterre. Un autre exemple, William Booth, le fondateur de l'armée du salut, qui était un contemporain de Karl Marx et qui a fondé dans les années 1860 cette organisation qui existe encore aujourd'hui et qui est venue au secours des plus faibles. Non seulement ce que tu penses, mais ce que tu fais doit être transformé. Toujours dans le verset 13, « Soyez sobres. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Et enfin, finalement, ce que tu es doit être transformé, ton caractère doit être totalement différent. Alors, on pourrait continuer à donner des exemples, mais j'aimerais vous attirer votre attention sur une réalité. C'est d'où vient cette espérance vivante dont Pierre parle ici. Eh bien, Pierre mentionne la nécessité d'être saint, et il nous explique comment l'être. Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, etc. Et finalement, moi, quand je dis ça, mais ça me décourage à un point tel que il suffit que je repense à toutes les fois où j'ai manqué d'amour envers ma tendre et bien-aimée dans la semaine pour que j'ai envie de pleurer. La réalité, c'est que je ne peux pas, c'est pas possible, et tu ne peux pas non plus satisfaire aux exigences que Pierre pose ici. Qui peut ici peut se lever et dire « Regardez comment mon espérance est vivante, regardez comment je suis saint ». Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est Christ lui-même. Et pourquoi est-ce que Christ peut se lever et dire « Regardez comment je suis saint et regardez comment mon espérance est vivante ». Parce que Christ est le seul à avoir vaincu le tueur d'espoir numéro 1. Christ est le seul à avoir vaincu la mort. Ou une autre manière de le dire, est-ce que Christ a perdu espoir à la croix? Est-ce que Christ avait toujours une espérance lorsqu'il est mort sur la croix? Eh bien, moi, je pense que non. Je pense que Christ n'a jamais perdu espoir. Et même lorsque son père l'a abandonné, il n'a pas perdu espoir parce qu'il savait que celui-ci allait le ressusciter, que la mort n'aurait pas la victoire, mais qu'après la mort, il y avait quelque chose, il y avait la résurrection, la vie, et que par conséquent, il devenait pour nous celui qui nous apporte l'espérance et qui nous transmet une espérance vivante. Et ce qui est génial, c'est que, par conséquent, l'espérance vivante de Pierre n'est pas un objet, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est une personne. L'espérance vivante de Pierre, c'est Christ. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ainsi, ce que Christ accomplit à la croix se réalise dans nos cœurs par son esprit, Christ est vivant en nous. Emmanuel, Dieu est avec nous et nous donne une espérance vivante. Je ne peux pas vous quitter sans vous rappeler ce qu'on a vu ensemble. Il est important de découvrir ces espérances. Il est important de découvrir les fondements de ces espérances et de savoir si ces espérances sont vivantes. Vous avez la réponse à la question ? C'est un tweet